Les entretiens d'Ajaxia, le face-à-face. Olivier Principal, Christophe Bordet sur Radio Immo.
Bah oui, il nous manquait, Olivier Principal, et il est là, il est là. Bonjour Olivier.
Bonjour Christophe, je vous manquais ?
C'est vrai ?
Moi, je ne sais pas si vous me manquiez, mais ça me fait plaisir de revenir vous voir.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci en tout cas d'être là.
C'est un plaisir de vous voir.
Une nouvelle fois. Et comme chaque semaine, je rappelle que vous êtes donc le professionnel, on va dire, de l'immobilier de référence au Raincy et à Paris dans le 5e. Donc ça y est, c'est parti mon kiki. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça marche très bien pour vous.
C'est top, c'est top, c'est top.
Je ne vais pas vous plaindre.
Nouveau challenge.
Bon, notre duel, bien sûr, cette semaine. Le nouveau DPE opposable. Oui, on va beaucoup parler de ce DPE opposable dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent également. Le diagnostic de performance énergétique, nouvelle version plus stricte que le précédent. Olivier Principal, ça vous réjouit ce nouveau DPE d'abord ou pas ?
Alors, me réjouir pas particulièrement parce que le DPE existait déjà, donc c'est pas une nouveauté dans le fond.
Ah ben là, on peut juste dire quand même que, on va dire, voilà, il y a une étude approfondie des caractéristiques techniques du bâtiment avec ce nouveau DPE, il faut expliquer quand même. Isolation, matériaux de construction, mode de chauffage, tout ça est passé au crible de manière très stricte.
Ça, c'est bien.
Pourquoi c'est bien ?
C'est bien parce que les anciens DPE étaient basés essentiellement sur des critères peu objectifs. C'était notamment la consommation de l'occupant qui est présent au moment de la réalisation du DPE qui nous donnait l'étiquette énergétique du logement. Donc si vous aviez un occupant, un locataire ou propriétaire un peu cul-gelé qui mettait à fond les radiateurs...
Un cul-gelé. D'accord.
Vous aviez au moment de la réalisation du DPE une analyse sur les factures de consommation de l'occupant qui correspondent pas en réalité à des valeurs moyennes ou à la valeur du bâti ou à la performance du bâti. Donc si vous voulez qu'on se cale désormais sur des critères objectifs qui sont la technique du bâtiment, l'isolation thermique par l'extérieur, les fenêtres, le système de ventilation, mais aussi dans le nouveau, la performance de l'éclairage, ça c'est intéressant parce qu'au moins... Que vous ayez un appartement vide, occupé, un cul gelé ou un cul chaud, vous êtes sûr d'avoir un DPE qui
non,
soit
quand
objectif.
Vous dites par exemple la performance de l'éclairage, ça veut dire quoi
concrètement ? Parce qu'en fait, on passe au crible.
On va aller passer au crible
la
lumière dans la cuisine.
Exactement.
Bah, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va
Je vais vous dire qu'une ampoule qui fait 4 watts en LED au lieu d'en faire une qui fait 60 watts en version tungstène, c'est pas la même consommation d'énergie. Ben, ce type de détail va rentrer dans le DPE.
Oui, non, mais ça, l'ampoule, après, le futur propriétaire, il peut la changer,
je veux dire.
Donc, non, mais c'est un peu bizarre, quand même. Comme,
L'ampoule, l'éclairage, la suspension,
mais c'est important, parce que les gens veulent savoir.
Non, ce qui est important, c'est qu'on ne s'arrête pas juste à la consommation du grille-pain radiateur électrique du locataire qui était présent au moment du diagnostic. On prend en compte tous les critères de performance, de consommation d'énergie, et ça n'est pas que le chauffage. C'est l'ensemble de l'énergie du logement.
Et quand vous dites l'isolation par l'extérieur, parce que alors ça, on n'entend plus parler que de ça. Enfin, on peut isoler par l'intérieur aussi.
Oui.
Non, mais les isolations par l'extérieur, d'une manière globale, je trouve que c'est assez laid à la fin.
Alors, bien évidemment, tous les immeubles qui, architecturalement parlant, ne sont pas modifiables. On ne recouvre pas des briques, on ne recouvre pas de la pierre de taille.
Bah oui, on ne
va pas recouvrir de la meulière. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a des bâtiments, il faut leur laisser leur cachet architectural. Par contre, toutes les façades des immeubles des années 60-70 sur lesquelles il y avait des façades entières qui étaient maçonnées, ça vous pouvez recouvrir, c'est pas
ça
gênant,
pas
vous
pire,
aurez le même aspect. Et vous pouvez toujours aménager votre façade après l'isolant thermique par l'extérieur avec des habillages qui vous permettent de donner aussi un cachet.
Mais alors l'empreinte carbone du logement entre dans l'équation là, véritablement.
Tout rentre dedans, oui. De toute façon, c'était le but du législateur à l'origine de la sortie du DPE. Quand on a commencé à nous faire faire des audits énergétiques dans les copropriétés, des DPE collectifs ou des DPE individuels, c'était quoi la logique ? C'était de dire attention, si vous consommez trop, on va vous taxer. On va vous taxer en fonction de l'étiquette énergétique de votre logement. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on taxe les véhicules qui circulent ou pas dans Paris en fonction
avec
de leur
vignettes.
Étiquette. Voilà,
ouais.
c'est pareil. Bon, on est dans la même démarche. L'objectif restera en finalité que l'acquéreur ou le locataire sache ce que va lui coûter le bien dans lequel il va loger.
Oui.
Et ça, plus ce sera précis, et mieux ce sera. Par contre, on risque de tomber dans
Il y en a qui vont avoir des surprises.
Oui.
Non, mais c'est vrai, c'est dramatique un peu pour cela.
Et d'autant qu'avec le, la loi climat et résilience, avec le projet de sortir de la possibilité de louer les biens qui sont en étiquette G, F, on parle même de E, donc c'est quand même un peu compliqué avec des échéances différentes, on ne peut pas passer à côté de la recherche de la performance énergétique. Et surtout, il va falloir qu'on refasse tous des DPE pour savoir où on se situe avec ce fameux DPE opposable.
Ça remet en cause complètement, d'ailleurs, effectivement, le problème de l'isolation effectivement, des maisons et leur consommation ou des appartements et des consommations énergétiques. Parce que ça veut dire, une fois de plus, que beaucoup de logements vont être dépréciés.
Alors, déprécié, oui. Alors, c'est vrai que vous pouvez quand même, même si vous ne faites pas d'isolation thermique par l'extérieur, vous pouvez toujours faire de l'isolation thermique par l'intérieur. C'est un second choix, isolation thermique par l'intérieur. C'est un second choix parce que le point de rosée, c'est-à-dire l'endroit où ça condense, va se faire à l'intérieur du logement, alors qu'on préfère toujours que ce point de rosée se fasse à l'extérieur du logement.
Pourquoi on dit le point de rosée ?
Parce que ça s'appelle comme ça.
Ah bon ?
C'est-à-dire, là, vous avez...
J'avais jamais entendu, mais...
C'est vrai, vous ne connaissiez pas le point de rosée ?
Non, mais je ne connais pas.
Le point de rosée, c'est le moment... C'est l'endroit où ça condense, entre le chaud et le froid. Vous savez, quand vous avez, vous êtes dans votre voiture et qu'il fait froid dehors ou chaud à l'intérieur, ça condense.
Ouais.
Soit ça condense à l'intérieur et vous, vous imaginez...
C'est la même chose avec mes lunettes en hiver et masque.
Avec le masque, exactement. Ouais. Voilà, ça dépend où ça condense.
Bon, dites-moi, on m'a rapporté quand même l'histoire d'un agent immobilier qui a dit à un vendeur, pas besoin de DPE, vous avez tout refait à neuf. C'est un peu une arnaque, là. Enfin,
faux.
Le type, il n'est pas pro, quoi.
Tous les biens à usage d'habitation, DPE obligatoire, donc il n'y a pas de sujet. Neuf ou pas neuf. Quand vous vendez, vous achetez dans un immeuble neuf, le promoteur vous fournit un DPE d'immeuble neuf, qui a une étiquette énergétique. D'ailleurs, les bâtiments qu'on appelait BBC, qu'on appelle toujours BBC d'ailleurs, sont classés B ou C. Mmh. Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc il y a toujours un DPE. Donc celui qui vous dit ça... Il va falloir qu'il révise sa formation.
On a des
si c'est bien
partout,
un agent immobilier.
C'est vrai, on a des étiquettes partout aujourd'hui. Hein. La voiture, parce qu'elle pollue. Le logement, parce qu'éventuellement, il pollue.
L'énergivore ou consommation
d'énergie. Etc. Oui. Nutri-score, quand on va au supermarché. Enfin, on ne vit plus.
Vous regardez tout ça,
on ne vit plus qu'à travers ça.
Vous regardez tout ça ou pas ?
Bah, je regarde, mais si j'achète du C ou du D, tant pis. Hein. Je veux dire, il y a un moment, ça fait du bien de manger gras et sucré aussi.
Bon,
hein.
Vous en êtes juste informé, vous le savez.
Oui. Non, mais sauf que là, c'est pas juste informé là, sur le logement.
Il va y avoir des conséquences plus lourdes.
Il va y avoir des conséquences
plus lourdes. Le DPE opposable.
Voilà, exactement. Le DPE maintenant opposable. Alors, c'est merveilleux.
Il est là, le pot de puits. Vous me demandiez si,
non, mais attendez,
si ça me faisait plaisir.
C'est merveilleux parce que l'acheteur pourra se retourner contre le vendeur. Et là, j'ai envie de dire, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est inévitable.
Alors, comme le DPE est toujours réalisé par un diagnostiqueur, s'il y a problème, ce sera le professionnel du diagnostic qui va trinquer, hein, si vous voulez, en finalité. Pourquoi c'est un problème ? Parce que jusqu'alors, on était à un devoir d'information sur un sentiment de performance énergétique. C'était un peu ça. Il y avait des critères, mais effectivement, c'était un sentiment. Demain, si... l'acquéreur ou le locataire ne se retrouve pas dans l'évaluation des consommations qu'on lui a données, il pourra agir en diminution de loyer ou intervenir en diminution de prix. C'est chaud. Alors, on avait la même chose avec la superficie loi Carrez ou la superficie loi Boutin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vous vend quelque chose que vous ne retrouvez pas dans la réalité, il y avait une possibilité de diminution du prix. Bah, le DPE, ça va être pareil. Là où c'est plus difficile, et on attend de voir un peu comment vont sortir tous les DPE, c'est est-ce que tous les diagnostiqueurs arriveront en finalité à évaluer avec la même fiabilité, donc avec les mêmes étiquettes énergétiques, des biens.
Mais enfin, ils vont tous utiliser les mêmes règles.
Certes, mais enfin, à un moment donné, si dans votre isolation par l'intérieur, vous avez mis 5 cm d'isolant, 8 ou 12, votre diagnostiqueur, il ne va pas venir, lui, pour aller démolir l'intérieur de la maison pour faire
ça,
les
c'est
sondages.
Vrai.
Donc, pardon, il va y avoir... des questions qui vont être posées. Il y aura peut-être une marge d'erreur. Est-ce qu'il y aura des techniques utilisées par les diagnostiqueurs un peu différentes pour garantir ? Parce que le sujet, c'est ça. C'est garantir que l'étiquette qu'on donne, ce sera la bonne. Notamment parce qu'elle est convertie avec un volume de consommation énergétique.
Non, mais par exemple, les appareils de mesure, j'imagine qu'ils auront tous le même genre d'appareil de mesure.
Oui, ça a vachement évolué. Je veux dire, aujourd'hui, on fait de la thermographie, on voit ce qui se passe derrière, on arrive à regarder la performance. Mais ça, j'ai grande confiance dans les diagnostiqueurs. Mais c'est vrai que ça va être une nouveauté parce qu'on va introduire dans l'esprit des gens une question de garantie de performance énergétique. Alors déjà que les fabricants de véhicules avaient eu quelques difficultés parce que pour arriver dans
mais
les
étiquettes énergétiques qui allaient bien, ça trafiquait. Parce que vous dites on se retournera contre le diagnostiqueur, on verra. Moi ce que je constate simplement avec ce DPE opposable, c'est qu'une fois de plus... Une fois de plus, qu'est-ce que l'on fait ? On montre du doigt le propriétaire parce que le propriétaire est forcément le vilain petit canard. Si on peut taper sur le propriétaire, on tapera sur le propriétaire. Et vous verrez qu'il y aura plein de locataires qui, pour X raisons, par exemple, se retourneront, ou des gens qui seront les nouveaux propriétaires qui se retourneront, parce que ça sera facile de une fois de plus, taper, ça sera facile d'aller chercher de l'argent, ça serait,
etc. Alors, là-dessus, Christophe, je pense qu'on va pouvoir avoir un discours rassurant vis-à-vis des clients propriétaires. Quand on fournit un dossier diagnostic technique, combien de fois on a un litige avec un acquéreur ou un locataire qui a les mêmes informations que le bailleur ou le vendeur. Je veux dire, il y a un professionnel externe qui est venu, qui a fait des évaluations, qui a écrit un rapport, qui est assuré pour. En général, on ne va pas contester le contenu, sauf s'il y a une erreur monumentale sur des choses qui sont facilement mesurables. Comment vous allez aller contrarier un diagnostic de performance énergétique, à part en fournissant un autre diagnostic fait par une autre personne ? Je veux dire, c'est le seul moyen. Bon, moi, je ne m'attends pas à avoir des difficultés sur ce sujet. Il y a un côté un peu anxiogène parce qu'on dit, ben voilà, il va y avoir une nouvelle responsabilité du vendeur, une nouvelle responsabilité du bailleur. Mais en réalité, dès lors que vous faites faire tous vos diagnostics par un professionnel reconnu et assuré,
bon, je vois jusqu'à l'heure. On verra. En tout cas, dans ces nouvelles règles, par exemple, il y a 200 000 logements chauffés au gaz, 600 000 logements chauffés au fioul qui deviennent des logements énergivores dans le nouveau système. Alors, bon, une fois de plus, les Français ne vont quand même pas changer de chauffage pour les beaux yeux du système mis en place.
Ah, pour le fioul, il va falloir quand même sérieusement, parce que l'objectif du
législateur... Moi, je me chauffe au gaz. Ma chaudière fonctionne très bien. J'ai absolument pas envie de changer ma chaudière, par exemple. Donc demain, si je veux vendre... Ben, d'accord, donc demain, si je veux vendre, on va me faire un diagnostic en me disant « Oui, mais vous chauffez au gaz, donc vous allez perdre tant de points, et donc votre logement, c'est moins tant,
etc. » On n'a pas fini de discuter sur le sujet des énergies.
On arrête d'emmerder les Français avec tout ça, hein, au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, Pompidou le disait, il n'avait pas tort à l'époque.
Quand il a été question de dire qu'on allait abandonner dans les constructions neuves le gaz, enfin, moi, je me suis dit « Ça va être techniquement impossible, je veux dire, on va y arriver. Hein. » Qu'on abandonne le fioul. Ça s'entend. Je veux dire, il y a quasiment plus de chaudières au fioul.
Oui, c'est dans la logique des choses, on va dire.
Bon. Le gaz, on était encore il y a 4-5 ans à faire acheter à tout le monde, et on le fait toujours, des chaudières à condensation, à haute performance énergétique. Ben alors, oui. On y met un peu de pompe à chaleur maintenant, mais vous savez, aller chercher des consommations électriques, c'est bien mignon, mais l'électricité, il faut la produire aussi. Donc,
en même temps, on veut fermer les centrales. Alors là aussi, il va falloir m'expliquer. Hein. Les écolos, par rapport à ça, il y a beaucoup à dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez des clients écolos, donc on ne va pas leur taper dessus.
Là, on parle du DPE, mais oui. vous avez raison, on a un nouveau critère d'évaluation qui vient se rajouter à tout un tas d'autres choses. On a parlé de la superficie, on parle du diagnostic de performance énergétique, il y a l'état des risques naturels qui est technologique et minier qui se rajoute, où on vous parle de la zone de sismicité, l'aérodrome, est-ce que vous avez du radon dans le sol, qui est un gaz radioactif, enfin... Incroyable. Quand vous arrivez à faire signer un bail, alors je vous parle même pas le diagnostic plomb dans les peintures, le plomb dans l'eau, l'installation électrique, l'installation de gaz, il nous manque juste une chose, un diagnostic du bâti. Vous voyez, un diagnostic structurel qu'on n'a pas, qui serait vraiment intéressant. Parce que là, si on avait un diagnostic du bâti, on aurait une vision complètement globale de l'état du bien. Et on n'aurait peut-être pas de problème comme
la,
on a
la
eu
question
le
que je me
Bagne,
pose, en fait. Et on va se quitter là-dessus. Mais la question que je me pose quand même, c'est que finalement, tout ce millefeuille qu'on demande aujourd'hui, pour le moment, et on l'a vu avec la crise, le nombre de ventes, d'acquisitions est monumental. On est à plus d'un million sur 12 mois, de mois à mois. Donc c'est quand même considérable. C'est-à-dire que les Français ont toujours confiance dans la pierre et veulent investir dans la pierre. Mais est-ce qu'il y a un moment avec tout ça, ça ne va pas un peu dégoûter quand même les gens ?
Plus il y en a, plus ça inquiète, bien évidemment. Quand on voit que dans les communes dans lesquelles il y a le permis de louer qui est en place, où on a toujours l'impression que c'est le bailleur qui est visé...
Non, mais ça, c'est intéressant aussi, le permis de louer. Alors, parce qu'il y a plusieurs villes qui l'ont mis en place. Là aussi, avec ce DPE, ça ne va pas être facile.
Juste avant de basculer là-dessus, Christophe, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les diagnostics ont été mis en place pour que l'acquéreur et le locataire sachent ce qu'ils achètent ou ce qu'ils louent. Il ne faut pas oublier qu'en 96, on achetait des appartements. Le vendeur qui était un petit filou vous disait il y en a pour 100 mètres carrés. En réalité, il y en avait 80. Mmh. D'accord ? Donc, on vendait à des gens n'importe quoi. Mmh. Ensuite, il y a eu l'amiante parce que c'était un problème de santé publique. Mmh. Et puis derrière, on a voulu garantir que lorsque vous achetez quelque chose, notamment un bien pour lequel vous allez investir pendant 10, 15 ans, 20 ans ou 25 ans, ça ne soit pas un investissement qui soit fait à la légère. Moi, je n'ai pas de sujet sur les diagnostics dès lors qu'on informe les gens. Comme ça, ils savent ce qu'ils achètent. Il n'y a pas de contestation dans la foulée. Là où c'est problématique, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes populations qui sont mises face à des responsabilités qui n'arrêtent jamais d'augmenter. Dans les communes dans lesquelles il y a le permis de louer, vous ne pouvez pas louer si le maire n'a pas dit oui, après avoir prononcé son accord sur la constatation de vos dossiers de diagnostic technique, des formulaires complémentaires qu'on envoie avant la signature du bail, après la signature du bail. Dans certaines communes, on fait payer les bailleurs qui font la demande.
Le permis de louer, je suis un peu entre deux eaux sur ce sujet, parce que s'il n'y avait pas eu des abus de certains petits filous, comme vous dites, peut-être que ce permis de louer, on n'y aurait pas pensé, je veux dire aussi.
Le problème, ce n'est pas le permis de louer. Enfin, le mot permis de louer, moi, m'ennuie, si vous voulez. On porte atteinte directement au droit de propriété. Vous louez, oui. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir l'accord du maire.
Oui, mais les mêmes qui mettent en place ce permis de louer, sont un petit peu dans cette logique qu'il faut arrêter avec cette France de propriétaires, etc.
Non, il y a quand même... c'est de la connerie, ça.
Oui, mais il y a quand même toute une, une idéologie derrière.
Arrêtons avec la France des propriétaires, tout le monde deviendra locataire, l'État sera propriétaire de tous les immeubles, et puis on sera dans l'époque, dans une époque magnifique, avec Pif Gadget et Crapulax. Comme ça, ça nous donnera l'occasion de discuter. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un intérêt dans tout. Moi, je l'ai vu, tous les biens qu'on louait dans les communes dans lesquelles il y a le permis de louer ont forcé les propriétaires et les administrateurs de biens à s'assurer que chaque bien loué était exempt d'anomalies qui auraient pu porter atteinte à la santé et la sécurité des locataires.
Donc, on se retrouve, on pense à Marseille, avec ces immeubles qui s'étaient effondrés.
Il n'y a pas de diagnostic structurel.
Voilà.
Et donc, s'il nous manque un diagnostic de structure, on ne va pas au bout de la démarche. Donc là-dessus, il va falloir qu'on avance, qu'on finalise. Mmh. Par contre, là où il y a une difficulté, c'est qu'on impose à des petits propriétaires de bonne foi des procédures lourdes comme la demande d'autorisation de mise en location qui vous bloque votre bien pendant un mois. Vous ne pouvez pas louer, signer de bail tant que le maire n'a pas dit « Ok, feu vert, on y va ». Un mois perdu sur des studios qui se renouvellent tous les ans avec un locataire qui change tout le temps. Vous perdez un mois à chaque relocation.
C'est une catastrophe. Et ce n'est pas le maire qui va payer. Hein.
Ah non, mais ça, il ne paye pas. Ça, c'est sûr. Mmh. Et derrière ça, on apprend que dans les communes, il n'y a pas le deuxième volet, c'est la recherche du marchand de sommeil. En fait, on pénalise le propriétaire de bonne foi qui fait sa démarche, et derrière, dans les communes, dans les administrations, il n'y a pas de personnel pour aller lutter contre
les voyous
marchands de sommeil.
Qui font n'importe quoi.
Et moi, je serais très heureux d'avoir un jour un débat avec une administration publique pour me faire avaler. Hein, et on devrait avoir des engagements de l'État et des communautés de communes ou des municipalités en disant « Ok, on met 50% de notre effectif à traiter les dossiers administratifs des gens de bonne foi, mais à côté, on va chercher ceux qui ne le font pas parce qu'on est toujours en train de taper sur les mêmes et ça, c'est chiant. »
Je vous avais bien raison. Je suis d'accord avec vous pour
vous
terminer. Oui. Non, mais écoutez, c'est vrai que ce nouveau DPE, c'est très bien, sans doute, mais ça pose beaucoup de questions. Et le permis de louer qui s'ajoute à ça, effectivement, là aussi, on pourrait faire tout un débat là-dessus, les amis.
Nous, on se bat en tout cas pour que les à la FNIM du Grand Paris et à la FNIM nationale, on se bat pour que les professionnels de l'immobilier soient exempts de la demande d'autorisation préalable. C'est-à-dire qu'on loue un bien, on s'engage sur la qualité du bien, on fait juste la déclaration de mise en location et c'est très bien.
Ouais.
C'est-à-dire que ça permettrait de ne pas immobiliser le bien pendant un mois. En tout cas, on se bat là-dessus parce que ça fait des années, depuis 2002, on s'était déjà engagé sur le décret sur le logement décent. On ne loue pas des poubelles aux gens. Les professionnels ne louent pas des poubelles. La problématique, ce sont les gens qui font ça eux-mêmes, les marchands de sommeil. Il faut consacrer des crédits pour cette lutte, mais il faut laisser les professionnels faire leur job.
Merci Olivier Principal pour ce nouvel entretien tonique à retrouver en podcast sur Radio Immo, bien évidemment. On va se retrouver la semaine prochaine, et puis après ça va être les vacances, donc on fera peut-être une petite pause. On reviendra bronzé, on sera en pleine forme, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous travaillez, vous, sur tout ce qui est location saisonnière, tout
non,
ça
avec je votre sais pas. Agence, mais non. Avec l'agence de Paris, on va peut-être en faire un peu, mais en l'occurrence, on fait beaucoup
On fera peut-être un débat là-dessus.
Hein. Avec plaisir.
Allez, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, je le redis, sur Radio Immo. Merci également à Pierre-Yves Falson pour la réalisation. À bientôt.
Les entretiens d'Ajaxia, le face-à-face, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.